Vous êtes sur RTL.
On refait le sport sur RTL.
Avec Le Parisien, aujourd'hui en France.
Isabelle Langer.
Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette demi-heure d'On refait le sport à 999 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. J'ai convié l'un des hommes qui prépare activement ce rendez-vous capital. Bonsoir Pierre Rabadan.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Adjoint à la mairie de Paris en charge du sport et des Jeux Olympiques et Paralympiques, nous avons beaucoup de questions à vous poser à moins de 3 ans de ces JO. Et pour m'accompagner ce soir, Benoît Lallemand, le directeur du service des sports du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. 99 jours, c'est oui, presque. On a tellement hâte d'y être.
C'est ça.
Je vais y faire une crise cardiaque.
Et Jean-Michel Rascol, monsieur Olympisme sur RTL. Bonsoir Jean-Michel.
Bonsoir Isabelle.
Messieurs, avant d'ouvrir notre page Paris 2024, l'actualité sportive, c'est tout d'abord du football. 12e journée de Ligue 1. Bonsoir Quentin Vasselin.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Nice est le nouveau dauphin du PSG.
Oui, Nice s'empare de la deuxième place du classement. Succès 2-1 des Aiglons qui étaient pourtant menés 1-0 à la mi-temps par Angers, pas grâce au pénalty transformé par Sofiane Boufal. Mais Andy Delors a tout renversé avec un doublé pour Nice. L'attaquant marque le but de la victoire à la dernière minute d'une superbe volée. 2-1 donc pour Nice.
Monaco chute en Bretagne.
Ça vient de se terminer. Défaite 2-0 des Monégasques à Brest. Mounier et Honora donnent le premier succès aux Brestois de la saison. Bordeaux, lui, est renversant. Victoire 3-2 contre Reims alors que les Girondins étaient menés 2-0 à la 63e minute. Yacine Adli d'abord, puis un doublé de Jimmy Briand offre la première victoire à domicile pour Bordeaux qui remonte à la 16e place. C'est pas terrible quand même. Strasbourg cartonne Lorient 4-0 à la Méno avec notamment un doublé d'Abib Diallo. C'est le 22e match sans victoire à l'extérieur pour Lorient. 3 Rennes se quittent avec un match nul 2-2. Naïef Aguerd ouvre le score en première partie de match. Puis les Bretons se font égaliser grâce au premier but d'Adil Rami sous les couleurs de 3. Et c'est Tristan Dingomé qui donne l'avantage avant que Martin Terrien égalise enfin pour Rennes. 2-2 donc entre 3 Rennes. Et Montpellier l'emporte 2-0 contre Nantes. Florent Mollet à la 63e. Et Wai, 7 minutes plus tard, donne la victoire au 0-0. 3e but de la saison pour Florent Mollet.
À 20h45, Clermont, le promu défie Marseille. Un match à suivre dans RTL Foot à partir de 20h avec le quatuor magique Silvestro, Domer, Castaldi et Durieux. En rugby, Quentin, 3 nouveaux joueurs rejoignent les Bleus à Marcoussis pour la tournée d'automne.
Oui, ça devrait intéresser notre invité Pierre Rabadan. Mohamed Aouas, Alexandre Béconnier et Gabin Villière sont dans le groupe des 42 joueurs de l'équipe de France pour préparer la tournée d'automne. On rappelle que les Bleus affronteront l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande en top 14. C'est le championnat de France cette fois-ci. Il y a une belle affiche ce soir, 21h05, le Racing 92 défie le Stade Toulousain. Le 6e reçoit le 2e. Marseille-Cassis, c'est une course de 20 km en Provence, une classique de la course à pied. Félix Dour s'impose en 1h, 1 minute et 55 secondes devant Mourad Hamdouni, pourtant champion d'Europe du 10 000 mètres chez les femmes. Victoire de Max D. Woldu. Handball féminin, Ligue des Champions, victoire de Brest 30-20 sur le parquet des Turcs de Kastamonu. Les Bretonnes sont 2e de leur poule avec un match de retard en Ligue des champions féminines donc. Et en tennis, Alexander Zverev brille et remporte le tournoi de Vienne grâce à une victoire sur Carlos Alcaraz en 2-7, 6-3, 6-3, de bon augure avant le tournoi de Bercy qui commence demain.
Et Guy Forget, le directeur du tournoi, sera en ligne avec nous en fin d'émission et nous entendrons le tenant du titre, le russe Daniil Medvedev, en français dans le texte, s'il vous plaît.
RTL.
On refait le sport avec Le Parisien aujourd'hui en France.
Les Jeux Olympiques de Paris, c'est dans moins de 1000 jours, Mathilde.
999 jours pour être exact. La capitale accueillera en 2024 les 30e JO de l'ère moderne.
On parle que de l'athlétisme, mais quand vous regardez que ça représente pratiquement 150 médailles potentielles et qu'on a fait une, si c'est pas une inquiétude, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler.
Kipchoge va partir dernier cette fois-ci. Et tous ceux qui arriveront avant lui au bout de 5 km, eh bien, gagneront ce dossard pour participer en 2024 à l'épreuve.
Tony Estanguet expliquait hier sur RTL. Eh bien oui, Paris a eu effectivement un avant-goût de ce que seront les Jeux dans moins de 3 ans. Plus de 3500 coureurs venus de toute la France et d'une vingtaine de pays étrangers ont tenté de décrocher leur billet pour l'épreuve du marathon ou du 10 km en 2024. Une course à handicap sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. L'objectif, c'était de ne pas se faire rattraper par le Kenyan, Kipchoge, recordman du monde, double champion olympique du marathon. Ça s'est passé comment, Pierre Rabadan?
Très bien, très bien. C'était franchement un bon moment.
Vous avez dit que c'était un avant-goût de ce qu'il y aura. En tout cas, c'était l'idée. Et il pleuvait pas, parce qu'on a eu un peu peur, je vous avoue, que de faire ça sous la pluie. Et je crois que c'était franchement un rendez-vous assez génial. Je sais qu'on va partager l'expérience. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Kipchoge a joué le jeu. Il a été là pendant très longtemps. Il a remonté difficilement, parce que du coup, il y avait quand même beaucoup de monde sur le parcours. Mais le parcours était sympa. Au des Champs-Élysées jusqu'aux Invalides, aller-retour, c'était pas mal. Et après, bon, il y avait quelques frustrations parce que voilà, c'est le calage comme on dit, et ce sont pas forcément les meilleurs coureurs qui ont été avantagés pour avoir leur dossard, mais c'était pas non plus l'idée de ce genre de challenge. Et il y en aura beaucoup d'autres, donc qu'ils se rassurent, les meilleurs qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas eu de dossard ont d'autres occasions avant les Jeux.
Eh bien, à RTL, nous sommes très fiers car l'une de nos journalistes a participé et s'est qualifiée. D'ailleurs, vous auriez pu mettre le maillot, Hortense.
Oui, alors il est en train de sécher sur l'étendoir à linge, je l'ai lavé en rentrant.
Alors, ça s'est passé comment ?
Très, très bien. Très contente, encore un peu de mal à redescendre. Moi, ça faisait près de 2 ans que je n'avais pas fait de course. Et puis, c'est mon premier semi-marathon à l'époque. Et à l'époque, j'avais déjà en tête Paris 2024, parce qu'on avait déjà annoncé qu'il allait y avoir ce marathon pour le grand public. Et puis, après le premier semi-marathon que j'avais bouclé, j'étais contente. Les confinements, donc dur de continuer à courir, dur de s'y remettre aussi. Et quand cette opportunité-là est tombée, très contente, c'était assez incroyable et surtout d'avoir ce recordman à côté. Vous avez donné son palmarès, de le voir s'échauffer surtout, parce qu'il s'échauffe à la vitesse à laquelle moi je cours très très vite. Enfin, quand je cours très très vite, c'est son échauffement. Mais très beau parcours, et puis l'arrivée sur les Champs est magnifique. Cette espèce de faux plat qui va être très dur, je pense, en 2024, parce qu'on aura eu plus de 40 km dans les jambes. Sous la chaleur, ce sera différent aussi. Mais d'entendre ça y est, vous êtes qualifié, et on est assez heureux.
Je dois vous dire que ce ne sera pas le même parcours. Hein. Ouais, l'arrivée ne sera pas sur les Champs-Élysées en 2024. Donc rassurez-vous.
Ce ne sera pas le faux plat.
Là, c'était que 5 km ce matin. Voilà. Et il faudra en faire 4295 en 2024. Donc il faut s'entraider.
Mais d'ailleurs, vous allez être accompagné jusqu'en 2024. Avec ce dossard-là, on va vous coacher en quelque sorte.
Ça, c'est aussi la chose qui est plutôt bien, c'est qu'on va pouvoir justement, parce que c'est compliqué quand moi j'ai jamais fait de marathon, j'arrive comme ça, je suis une joggeuse du dimanche, hein, clairement. Moi, je suis partie dans le premier sas parce que je suis une tortue. J'ai mis 28 minutes, donc j'étais très contente. D'ailleurs, je crois que j'ai fait mon record sur 5 km, donc vraiment en plus de ça, très contente. Mais de pouvoir être accompagnée, ça c'est aussi quelque chose de bien.
C'est pas mal pour une tortue d'ailleurs.
Ouais. Ça fédère aussi, parce que c'est vrai que les gens autour de moi, tout le monde était très content, et ça donnait, comme vous le disiez, un avant-goût clairement de ce qu'on va voir. Et on est plus que motivé. J-1000, ça donne, en même temps, ça nous paraît loin, mais ça paraît quand même très très proche pour se préparer.
Bon, bonne préparation.
Merci.
Pierre Abadan disait, vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge du sport et des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais vous avez eu une vie avant que nous résume Jean-Michel Rascol.
Oui, dans une autre vie, Pierre, vous avez poussé en mêlée avec les gaillards du Stade français. 5 titres de champion, 5 boucliers. On se souvient d'une finale mémorable face au Stade toulousain en 2003. Le rugby a aussi l'accent parisien. L'histoire retient que le 30 août 2013, vous avez inscrit le premier essai dans le nouveau Stade Jean Bouin. Vous avez porté le maillot des Barbarians, œuvré pour Proval, le syndicat des joueurs. Et je me souviens vous avoir vu gratter quelques bons ballons lors d'un Canada-France en 2004. Lors de l'une de vos deux sélections avec le 15 de France. Vous êtes, on l'a dit aujourd'hui, élu au Conseil de Paris. Mais au-delà de la bio officielle, vous avez joué avec notre camarade commun ici à RTL, Christophe Dominici. Vous avez, il y a quelques jours, inauguré d'ailleurs un stade au nom de Christophe. L'émotion était bien présente au pied des poteaux. Alors, Domi aurait apprécié que je rajoute à votre palmarès le fait que vous avez été l'un des premiers à poser pour le calendrier des dieux du stade. La camaraderie mène à tout, même à des poses sensiblement érotique.
Absolument, merci de ce petit comeback. Même s'il y a beaucoup d'émotions, évidemment, Christophe qui a été votre consultant ici, et c'était pas simplement un joueur avec qui j'ai joué, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé presque 15 ans de ma vie, qui m'a beaucoup appris, qui était un joueur hors normes. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est quasiment un des joueurs dont je me rappelle quasiment peut-être le seul où je me rappelle jouer avec lui et me dire profites-en, t'as de la chance d'être avec ce mec sur le terrain, quoi. Tellement il était incroyable. Et puis c'était un ami en dehors du terrain, même quand il a arrêté, comme il était un peu plus âgé que moi. Et puis voilà, je connais très bien ses proches et ça nous a tous dévastés. L'émotion est encore vive. En tout cas, j'étais content de pouvoir lui rendre hommage et le Conseil de Paris. J'ai eu de nombreux témoignages parce que c'est quelqu'un qui fédérait au-delà du rugby, qui était connu bien au-delà. Et voilà, c'était un beau moment et on lui a rendu un bel hommage à la hauteur du joueur et de l'homme passionnant qu'il était.
Vous avez 41 ans, Pierre. Vous êtes né un 3 juillet, c'est une jolie date. Hein. 3 juillet, c'est d'ailleurs un jour clé dans votre vie, parce que je crois que c'est la première sélection chez les Bleus avec contre les États-Unis. Et c'est le 3 juillet aussi 2020 que vous êtes venu donc adjoint à la mairie de Paris en charge des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. À moins de 3 ans, vous savez, ce chiffre clé encore une fois, hein. Vous êtes optimiste, tout sera prêt.
Ouais, je suis plutôt de nature optimiste, mais par ailleurs, oui, je crois que malgré les contraintes qui ont été les nôtres, et je vais pas revenir dessus, mais évidemment, le Covid a été compliqué à gérer. On a eu un petit peu d'inquiétude sur la mise en activité des chantiers, et pour l'instant, sur le pérenne qui a démarré, hein, en gros, sur les constructions pérennes, les villages que vous connaissez bien, Isabelle, le village des athlètes et les constructions, et notamment à Paris, on en a une, c'est l'aréna de la Porte de la Chapelle. Pour l'instant, nous sommes dans les délais. Après, il y a tout le côté temporaire, hein, qui est un des aspects forts du concept de Paris 2024, qui lui suit son cours. Pour l'instant, il n'y a pas de retard. On travaille évidemment en étroite collaboration avec le COJO, avec une chose qu'il faut quand même dire, c'est que nous faisons une nouvelle norme, nous créons en fait une nouvelle norme de jeu, hein. On a parlé de la cérémonie, je pense qu'on va y revenir, mais il y a aussi beaucoup d'épreuves qui auront lieu dans Paris, et ça amène des nouvelles contraintes de sécurité, de circulation, des spectateurs, des athlètes, de la famille olympique, et tout ça, il faut le gérer, mais en même temps, c'est à la hauteur de ce qu'on veut faire, des jeux ambitieux, ouverts, pour changer un peu le cadre de ce qui a été fait dans le passé.
Benoît Lallemand.
Oui, bonsoir Pierre. On parlait de jeux ouverts et du marathon ouvert à tous. Alors, pas encore à vous, je crois. Pas encore.
Pas encore.
Mais bientôt. Il y a la cérémonie d'ouverture qui se veut révolutionnaire et hors stade. Ça n'est pas sans poser quelques soucis, notamment de sécurité. Mmh. Où est-ce qu'on en est pour cette cérémonie attendue sur la Seine avec des bateaux et beaucoup, beaucoup, beaucoup de public?
Il y a eu une réunion cette semaine, je crois. Ça a été étendu?
Alors, je n'étais pas convié à la réunion. Je crois que c'était une réunion au niveau des ministères. Mais non, c'est pas tendu. Disons qu'il y a des positions, il y a évidemment des contraintes, j'en parlais, notamment en termes de sécurité. Nous, ce qu'on souhaitait, et c'était l'idée originelle, c'était sortir les cérémonies du stade, où en gros, au Stade de France, il y aura 80 000 personnes qui pourraient y assister, pour un nouveau concept qui permettrait de l'ouvrir au grand public, d'avoir beaucoup plus de spectateurs, en dehors de ce qu'on verra à la télé. Donc il y a effectivement l'hypothèse de la faire autour de la Seine, en utilisant les ponts et les berges, haut et bas, mais ça pose des sujets de sécurité forts, vous l'imaginez bien, la densité, le filtrage. On est dans une période où on ne peut pas faire des événements où tout est ouvert, malheureusement. Ça sera encore le cas en 2024. Donc, on discute avec l'État, qui est en charge de la sécurité, des conditions opérationnelles de cette sécurité-là. Mais, évidemment, on ne fera rien qui mettra en danger qui que ce soit et qui amènera la sécurité. Mais il faut voir ça comme un événement le plus populaire possible. Donc, on discute. C'est pas tendu. J'ai vu les nombreux papiers. Il y a des points de vue qui sont un peu divergents, mais j'espère qu'on arrivera à trouver un chiffre et une acceptabilité commune qui pourra en faire profiter le plus grand nombre.
Vous espérez, est-ce que ça veut dire que c'est pas encore définitivement fait, cette cérémonie sur la Seine?
Je pense que le concept est validé par tous. Après, il faut comprendre que on a intérêt à le faire si ça profite à un nombre conséquent de personnes. Si on arrive à un chiffre assez peu ambitieux, ça pose question. Est-ce que ça vaut le coup de changer, de faire un nouveau concept avec tout ce que ça entraîne, si peu de gens en profitent ou ne les voient qu'à la télé? Donc, c'est un peu ça l'objet. Le débat en tout cas qui reste à trancher aujourd'hui, mais je suis optimiste. Je pense que le président de la République a validé cette option-là. Maintenant, il faut qu'on travaille en bonne intelligence pour trouver un chiffre satisfaisant et un nombre conséquent de personnes qui puissent y assister.
La maire de Paris d'ailleurs a validé, comme le président de la République, ainsi que Thomas Barr, le président du CIO. Mm-hmm. Il y a une vraie volonté politique de pouvoir...
Oui, mais bien avant l'annonce, je peux vous le dire maintenant, du président de la République. Nous en parlons depuis presque 2 ans.
Donc, ouais, c'est les Jeux de la jeunesse à Buenos Aires, très précisément.
Oui, alors qui était un premier test, mais on avait déjà émis l'hypothèse avant, et voilà, ça a été bien gardé, parce qu'il fallait, il y a encore, vous voyez, des ajustements à faire. Mais c'est une option qui nous paraît, dans l'idée qu'on veut créer des Jeux à Paris, qui paraît correspondre à cette philosophie.
D'ailleurs, le baromètre Odoxa pour Kenéo et RTL de la semaine était consacré à Paris 2024, Jean-Michel Rascol. Et les Français émettent quand même des réserves sur la cérémonie d'ouverture sur la Seine.
Oui, alors avant cela, l'opinion publique soutient toujours massivement Paris 2024. 74% des Français se félicitent de l'organisation des Jeux. Ils sont même 83% chez les amateurs de sport. 6 Français sur 10 estiment qu'il faut en revanche limiter l'accès à la cérémonie d'ouverture si elle se déroule sur la Seine. Pour des raisons, bien sûr, de sécurité. Et puis un autre point, 22% aimeraient obtenir des places pour les compétitions. Cela fait, Pierre, plus de 11 millions de personnes, sans compter les enfants et les spectateurs étrangers. Alors bon courage, hein, parce que ça, on va vous en demander des places.
Oui, bien sûr, je peux dire ouais. Juste un petit commentaire. Évidemment, j'ai essayé de le dire tout à l'heure, évidemment, si on n'avait pas ni de normes de sécurité, on sait qu'il y aurait sans doute plusieurs... j'allais dire dizaines de millions, faut pas exagérer, mais plusieurs millions de personnes qui voudraient assister à cet événement. Évidemment, ça pourra pas être 3, 4, 5 millions de personnes, mais il faut arriver à un chiffre suffisamment conséquent pour qu'on puisse dire la cérémonie de Paris 2024, elle a marqué une nouvelle étape, elle a été ouverte au plus grand nombre, et même ceux qui ne pouvaient pas se payer un billet, parce qu'il y aura aussi de la billetterie payante au plus près du concept, mais même ceux qui ne pourront pas, ils pourront voir ça en vrai, ils pourront dire moi j'étais à la cérémonie d'ouverture, et c'est l'état d'esprit que l'on veut amener. On veut des jeux qui soient le plus ouverts possible, ça passe aussi par la cérémonie d'ouverture.
Messieurs, ne bougez pas, vous écoutez RTL, il est 19h46, nous revenons après une courte pause.
RTL, on refait le sport
avec le Parisien aujourd'hui en...
On refait le sport sur RTL
avec le Parisien aujourd'hui en France,
Isabelle Langer.
Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris en charge des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, est notre invité ce soir. Pierre, Paris 2024, c'est bien, mais ce n'est pas une fin en soi. L'héritage, ça vous importe aussi beaucoup, hein.
Oui, ça nous importe parce qu'on sait aujourd'hui, pour revenir sur le sondage, on va dire, dont vous avez parlé, on sait qu'il y a une certaine défiance d'une partie de la population, et elle est normale, ou une méfiance, je ne sais pas comment on dit, sur des éditions du passé qui ont été assez maladroites, avec des excès dans la construction, des choses qui ne servaient pas après les Jeux. Et donc, il y a évidemment un côté sur l'héritage matériel qui est une première chose, on en a parlé, même si nous, on fait moins de construction pérenne ce qu'il y a eu dans d'autres éditions, et celles qui ont été choisies l'ont été par des collectivités identifiées, notamment la Seine-Saint-Denis, qui a un besoin de transformation territoriale. Et ensuite, nous souhaitons qu'il y ait un fort héritage immatériel. C'est quoi l'héritage immatériel ? C'est
développer la pratique sportive.
Développer la pratique sportive, c'est accélérer des politiques publiques grâce aux Jeux. Je pense à la baignade la requalification la Seine. De la Seine, la baignade en Seine, donc améliorer la qualité de l'eau. Je pense à la sortie du plastique à usage unique. On a beaucoup de choses à Paris qui s'accélèrent grâce à l'organisation de ces Jeux. On a pris finalement le prétexte pour faire en sorte que ça marche mieux. Et on a déjà lancé beaucoup de choses. Cette année, il y a eu, avec le fonds de dotation Paris 2024, avec la participation de l'ensemble des acteurs, déjà des résultats remarquables sur notamment aller chercher des publics éloignés de la pratique, faire de l'impact social à travers le sport. Ça, c'est de l'immatériel, mais ça marche déjà beaucoup. Et je pourrais vous donner quelques chiffres si ça vous intéresse.
Jean-Michel Rascol.
Pour revenir à la cérémonie, l'idée, c'est des barges qui traverseraient la Seine. Mmh. Dans ce cas, d'ailleurs, on parle peut-être même de 2 cérémonies, parce qu'il faut aussi bien prendre en compte les Paralympiques, peut-être 2 sur 4, tout ça, ce sont des idées qui circulent. Mais dans ce cas-là, où serait placée la vasque olympique, Pierre Rabadan?
Même si je le savais, je pourrais pas vous, je vous le dirai pas ce soir, mais il y a encore plusieurs options qui sont étudiées. Mais si la cérémonie se déroule dans ces conditions-là, évidemment, l'idée est d'avoir des bateaux, des péniches qui escorteraient comme on le faisait dans le stade des délégations, et arriveraient aux alentours du Trocadéro. Donc voilà, il est probable que la vasque se trouvera quelque part sur ce chemin.
On avance.
Si je puis dire.
Benoît Lallemand.
Si on veut parler de jeux réussis, alors on n'a aucun doute sur la capacité de la France à accueillir et organiser ces jeux. On a peut-être un doute un peu plus gros sur la capacité de la France à faire beaucoup de médailles et beaucoup de titres. Ça. Et, mais après, on parlait d'héritage immatériel. En quoi ces Jeux seront réussis concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire dans la Seine-Saint-Denis et ailleurs? Qu'est-ce qui doit rester de ces Jeux vraiment concrètement, de manière immatérielle?
Ce qui restera, ce sont des nouvelles structures. Je l'ai dit, et particulièrement en Seine-Saint-Denis, la transformation d'un quartier avec le village des athlètes qui va être, qui est quand même assez révolutionnaire. Si vous l'avez vu avant et que vous voyez déjà comme c'est aujourd'hui, on voit l'évolution. Il y aura le centre des médias aussi à Duny-le-Bourget. Il y aura le centre aquatique olympique en face du Stade de France. Nous, à Paris, nous faisons l'Arena, on rénove des centres d'entraînement. Il y a de l'héritage matériel et il y en aura dans d'autres collectivités. Mais au-delà de ça, la réussite, elle passera, comme je le disais, par la validation de ces plans d'héritage qui ont été mis en place. Nous, en tout cas, à Paris, on est la ville hôte, évidemment, mais on a ce plan d'héritage. On a mis un plan qui s'appelle Transformation olympique. Il y a 20 mesures. Et ces 20 mesures-là, après 2024, on pourra dire est-ce qu'on les a réussies ou pas. Donc voilà, je vous en ai cité quelques-unes sur l'accessibilité aussi, la mise à, le développement du parasport. Voilà, on a tout un tas de mesures qui peuvent différer. Moi, je vous parle au niveau de la ville de Paris, c'est là où se trouvent mes compétences. Mais après, il y a un enjeu clair, j'espère, qu'il y aura eu pour la pratique du sport et sa considération et l'investissement qu'on y met un avant et un après 2024. Et aujourd'hui, il me semble qu'il n'est pas encore assez important et j'espère d'ailleurs que ça sera un des enjeux de la présidentielle qui arrive.
Est-ce qu'on aura des équipements sportifs comme c'est le cas dans plein de villes dans le monde où on peut faire un peu de muscu, etc. Voilà.
Vous voulez faire de la muscu, Isabelle?
Dans des parcours training dans la ville.
Voilà.
Oui, alors
un
ça,
petit peu plus, ça, de développer.
Honnêtement, ça n'a pas trop de lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques parce que
c'est
moi,
l'accessibilité aussi.
Moi, je souhaitais, à Paris notamment, vous savez, ça ne nous a pas échappé que on récupère de l'espace public, on veut le réaménager, notamment pour y mettre des parcours sportifs mieux identifiés et qui permettent d'avoir des objets de musculation, d'entretien physique, on va dire.
Voilà.
Qui soient plus nombreux, mieux insérés, parce que souvent ce n'était pas le cas, et en tout cas mieux identifiés. Donc oui, on ces parcours-là, mais ils seront faits, Jeux Olympiques ou pas Jeux Olympiques, ils seront présents dans la ville. On va par exemple relier les deux bois entre le bois de Vincennes et le bois de Boulogne, et je voudrais en faire un du nord au sud, et après créer des parcours d'arrondissement dans lesquels on valorisera un peu mieux les équipements sportifs en libre accès. Mais il y a aussi tout le sport, je vais dire associatif, qui doit être amélioré.
Oui, comment faire pour que la France devienne une nation de sport, en fait, et que ça soit culturel? Alors, il faut évidemment des équipements, mais ensuite, il faut que ça soit dans l'esprit de chacun, ouais, que le sport est important.
Bah, moi, je vais essayer d'être court, mais je pense qu'il faut le renforcer, évidemment, dès l'enfance, dans le système scolaire. Il faut donner plus de place à l'activité physique, parce qu'on parle beaucoup de sport, mais c'est le sport, ça fait un peu élitiste, ça fait un peu compétition, et ça inquiète des fois des gens. Donc, je pense qu'il faut déjà changer, amener plus d'activité physique et de sport dans le parcours éducatif, mieux le valoriser. J'ai été dans cette situation, et beaucoup le sont encore. J'étais mercredi sur le pack de performance. On laisse parfois le choix aux sportifs, où vous faites une carrière, où vous faites des études. C'est plus possible. Parce que forcément, et parfois ils ont raison, il vaut mieux faire des études, assurer son avenir.
Il vaut mieux faire une carrière dans les études.
En tout cas, tout le monde n'arrive pas au très haut niveau. Donc voilà, et après, il faut concevoir le sport et l'activité physique comme un parcours tout au long de la vie. On sait qu'il y a des ruptures de pratique. Il faut développer le sport en entreprise, il faut développer le sport chez les personnes âgées. Le coût de la sédentarité est démentiel. Ce sera un investissement avec un ratio. Je ne vais pas vous donner de chiffres, mais je suis en train de les étudier. Mais je pense de 1 à 5. Je pense que si on investit un moment dans le sport, on paiera 5 fois moins cher que quelqu'un qui est malade. Vous l'avez vu, le Covid l'a remis en lumière. Si moins vous êtes en bonne santé, plus vous êtes gravement malade et de manière régulière. Donc voilà, je pense que c'est ça qu'il faut que ça amène. Et surtout un investissement beaucoup plus gros dans la pratique sportive.
Isabelle Langer, on refait le sport sur RTL avec Le Parisien aujourd'hui en France.
Beaucoup de fatigue et quelques petits pépins physiques forcément de fin d'année, mais j'ai connu mieux. Mais tu vois, on est à Paris, donc on essaie d'oublier tout ça et d'aller à fond, quoi.
L'autre actualité de la semaine qui vient à Paris, c'est le tennis avec le Rolex Paris Masters, Pierre Abadan. Et Gaël Monfils, le numéro 1 tricolore, n'est pas au mieux de sa forme, mais il compte sur l'ambiance de l'Accor Hotel Arena pour reprendre confiance. Et le directeur du tournoi est avec nous. Bonsoir Guy Forget.
Bonsoir Isabelle.
Beau plateau cette semaine, même si Nadal et Federer ne sont pas là. Djokovic, Medvedev, il y a du beau monde.
Oui, effectivement, vous avez raison. On a un plateau extrêmement fourni cette année, avec des places pour le Masters de Turin qui sont encore qui vont se jouer hein, sur notre tournoi. Il y a deux places avec cinq joueurs potentiellement qui peuvent se qualifier. Vous l'avez dit, la nouvelle génération, bien sûr, hein, Zverev, Tsitsipas, Medvedev. La place de numéro mondial de Novak Djokovic n'est pas encore complètement acquise, donc ça peut se jouer sur les deux dernières épreuves de l'année. Donc voilà, on est ravis d'accueillir, vous le savez, du public à nouveau dans cette salle. Donc voilà, nous sommes tous impatients de voir les meilleurs joueurs du monde s'affronter.
Eh bien justement, Daniil Medvedev, il a accepté de répondre à quelques questions en français lors de la conférence de presse cet après-midi. Écoutez-le. Bonsoir Daniil Medvedev.
Bonsoir.
Daniil, vous qui parlez si bien français, qui vivez en France, revenir à Paris, là où vous avez gagné l'an dernier, dans cette salle, avec du public cette année, j'imagine que c'est un vrai plaisir.
Oui, déjà, j'aime bien jouer en France, surtout après Roland-Garros, c'était vraiment marrant. Je me souviens très bien que les gens étaient pour moi. C'est vraiment dommage que le dernier match, je ne pouvais pas avoir le public. C'était vraiment sympa et même, j'ai envie de dire, un peu inhabituel. Je vais essayer de jouer avec eux. Je pense que je le fais bien, donc ça me fait plaisir de retourner ici. Bien sûr, après, le plus important, ça reste de jouer bien et de gagner des matchs. C'est comme ça que tu peux avoir le public sur ton côté, parce que si tu joues qu'un match, c'est pas assez.
Daniil, vous pouvez encore terminer la saison à la place de numéro un mondial. Est-ce que c'est un objectif ?
L'objectif, il reste trois tournois pour moi, inclus deux tournois. Où il y a des points, donc, parce que Coupe Davis c'est différent. Honnêtement, chaque tournoi que je joue, maintenant je veux gagner. Après, c'est pas facile. Il y a beaucoup de bons joueurs, quelqu'un, on va dire, en forme maintenant, comme Zverev. Novak, il est toujours dur. Dès qu'il joue le tournoi, il est bien favori pour le gagner. Donc, je veux jouer bien. Je pense que même juste de gagner les deux tournois, c'est pas assez. Il faut que Novak perde. Donc, honnêtement, je pense pas du tout à ça. C'est plutôt l'objectif, j'ai envie de dire, pour après, où il faut encore mieux jouer sur les grands chelems. Et c'est comme ça que tu peux devenir le numéro un mondial, je pense.
Il est incroyable, Guy Forget, Daniil Medvedev. Quel Français ! On aurait presque envie de le naturaliser. Hein.
On en aurait presque besoin.
Ouais, et puis en plus il est très humble, hein. Il est apprécié sur tous les continents, partout où il joue, mais bien sûr de par sa personnalité, puis la qualité de son jeu. Il a, vous le savez, un style de jeu très atypique, il y a des frappes extrêmement plates, un grand service, il tente des amortis, il exprime ses émotions sur le terrain, ce qu'on a parfois reproché à ses aînés. Donc voilà, c'est ça qui fait aujourd'hui, je dirais, tout ce succès populaire qu'il a dès qu'il rentre sur un terrain.
Benoît Lallemand.
Oui, bonsoir Guy, on parlait en souriant de le naturaliser, juste pour souligner que peut-être s'il y a un très très gros plateau, il manque un peu de français au top.
Sept seulement, hein.
Oui, écoutez, bon, vous avez raison, hein, c'est clair, mais enfin, là aussi, hein, comme chez les ténors du classement ATP, il y a peut-être une petite passation de pouvoir. On sait que nos aînés ont été pas mal blessés là ces derniers mois. Alors il reste quand même Gaël Monfils, hein, qui, qu'on le veuille ou non, je trouve tape très très bien la balle. Un Richard Gasquet qui avait des petits pépins physiques et je l'ai vu taper tout à l'heure la balle. Ça semble rentrer dans l'ordre. Et puis on a Hugo Gaston qui s'est qualifié une nouvelle fois avec la manière. On sait que c'était un petit peu le chouchou. À Paris, on l'avait découvert à Roland-Garros. Et puis voilà, c'est un tableau extrêmement difficile. Les meilleurs joueurs du monde sont là. On espère qu'il y en aura un d'entre eux qui va à un moment donné avancer dans le tournoi. Et puis on croise les doigts pour l'année prochaine, en tout cas après.
Pierre Abadan, vous irez faire un tour au Rolex Paris Master ?
Bien sûr, c'est un de mes tournois préférés. Bonsoir Guy. J'aimerais bien avoir ton pronostic parce que comme je viendrai à la finale, je voudrais voir si c'était à côté de la plaque ou si.
Ouais, bonjour Pierre. J'ai pas très d'original, hein. Je crois que Novak Djokovic a gagné à 5 reprises ici. Il a pas joué alors depuis l'US Open, hein, sa fameuse défaite contre Medvedev. Donc, il va avoir, à mon avis, peut-être un premier tour un petit peu délicat. Il va falloir qu'il soit extrêmement vigilant. En plus, il va jouer le vainqueur de Fuscovic ou Fognini, hein, l'italien. On sait qu'il est un joueur extrêmement dangereux. Donc voilà, je pense que Djokovic aujourd'hui et Medvedev sont les deux quand même grands favoris du tournoi. On risque de les retrouver en finale. Novak, vous avez envie de prendre sa revanche sur Daniil, voilà. Après, il y a pas des surprises de la part de Zverev, hein, qui vient de gagner là à Vienne tout à l'heure. Il y a Sinner, le jeune italien, qui est en grande forme aussi. Et puis bon, Tsitsipas, hein, on se souvient de ce garçon qui avait poussé Novak dans ses derniers retranchements à Roland-Garros. Donc voilà, un plateau une nouvelle fois formidable. Donc voilà, j'invite Pierre et bien sûr tous les autres Parisiens à venir.
Oui, parce qu'il y a du public cette année.
Il y a du public, on n'a pas de jauge, hein, donc là on a une jauge à 100%, donc les gens peuvent venir avec le pass sanitaire, bien entendu, mais il reste pas mal de places à vendre, donc voilà, tous les amoureux du tennis, venez nous voir sur notre tournoi, on sera ravis de vous accueillir.
Serai là, Guy, et j'emmènerai du monde avec moi.
Merci beaucoup, Guy Forget, bon tournoi.
Merci Isabelle, à bientôt Pierre.
Merci Pierre Rabadan de nous avoir accordé cette demi-heure.
Merci, ça passe toujours trop vite.
C'est exactement ce que j'allais dire. Benoît Lallemand, qu'est-ce qu'on pourra lire demain dans les pages sport du Parisien aujourd'hui en France ?
Un peu de tennis évidemment, un peu de PSG bien sûr, et puis du Paris 2024 avec l'expérience d'un journaliste qui, comme Pierre, n'a pas réussi à avoir son dossard pour le marathon, et puis une très bonne interview de Ladji Doucouré à propos des Jeux et la manière dont il espère que ces Jeux profiteront à tout le monde.
Le Parisien retrouvé dès 23h30 pour les abonnés numériques. Dans un instant, je vous laisse avec les copains de RTL Foot. Une petite pub et c'est le journal.
RTL, on refait le sport
avec le Parisien aujourd'hui.